Au Cap Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Au Cap Action, pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Au Cap Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.
L'état propre de ma grande sœur, elle voulait surtout aller en Angleterre, mais en passant par le Portugal. Arrivée au niveau du Portugal, elle a été cueillie là-bas et retenue dans un centre-là, dans des conditions qui n'étaient pas vraiment bonnes. Quand les gens des droits de l'homme venaient, tout ça, les agents d'immigration s'arrangeaient pour les cacher.
Bonjour et bienvenue à cette émission. Les femmes qui émigrent dans la clandestinité sont souvent exposées à la maltraitance, à l'exploitation, elles subissent même des abus sexuels. L'UNFPA tire la sonnette d'alarme à ce sujet et demande au gouvernement congolais de prendre des mesures requises afin de protéger la femme congolaise. Dans un instant, chers auditeurs, nous en parlons avec vous. Je prie donc tous ceux qui aimeraient réagir. Le numéro de téléphone pour les SMS, c'est le 081 070 2050. Et pour ceux-là qui aimeraient témoigner, appelez-nous au 081 890 63 94. Les pensionnaires du zoo de Lubumbashi sont en danger. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, quelqu'un a mis le feu à l'abri des bébés chimpanzés du zoo de Lubumbashi, dont l'un est décédé. D'autres sont grièvement brûlés et suivent des soins. Toujours dans le même zoo, il y a quelques années, des militaires avaient abattu des crocodiles du Nil qui attiraient des touristes du monde entier au motif que ces crocodiles avaient tué un malade mental qui s'était jeté dans leur espace. Aujourd'hui, à travers les ondes, nous vous emmenons dans le zoo de Lubumbashi. Nous ferons le point sur les différents problèmes rencontrés dans ce zoo, raison pour laquelle je vous invite à réagir dès maintenant, toujours au numéro de téléphone 081 070 2050, en écrivant à action@radiocapi.net. Nous allons d'ailleurs retrouver Paul Kabouba qui est déjà en ligne. Paul Kabouba, jambo Abarikani.
Jambo Nicole Ngata, bari mzuri kabisa.
C'est vrai que les bébés chimpanzés sont en danger là-bas au zoo de Lubumbashi?
Oui, c'est vrai, vous savez qu'il y a un programme qui a été initié par un groupe d'expatriés et le directeur du zoo afin de sauver ces primates qui sont souvent capturés par des braconniers. Mais malheureusement, il y a des inciviques qui ont mis le feu à leur abri et le zoo a ainsi perdu un des petits bébés chimpanzés et d'autres sont brûlés.
Mmh. On en parle en long et en large tout à l'heure avec vous, hein, Paul Kabouba. Encore une fois, j'insiste, réagissez déjà maintenant avec vos SMS au 081 070 2050. Paul Kabouba, tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Avant tout usage, je prends la précaution, c'est de mettre le produit hors de la portée des enfants. Et la deuxième précaution, c'est de lire le mode d'emploi pour connaître un peu comment, qu'est-ce que le fabricant a pu suggérer pour l'usage.
Les insecticides, les pesticides, les défrisants pour cheveux sont des produits utilisés couramment dans nos ménages et pourtant, ils sont toxiques et peuvent causer des dégâts énormes à la santé. Le saviez-vous? L'usage de ces produits doit normalement s'accompagner de mesures, de précautions, leur stockage aussi. Quelles sont ces mesures et quelle attitude adopter en cas d'intoxication? Continuez à être des nôtres hein, dans cette émission puisque nous en parlons. Bien sûr, aujourd'hui, vos SMS sont aussi les bienvenus au 081 070 2050. Alors pour tous ceux-là qui nous suivent sur www.radiocapi.net, allez écrivez-nous donc à action@radiocapi.net. Retenez qu'à la mise en onde, il y a aujourd'hui Jean-Claude Salah, à la réalisation jeudi Kassama et au micro Nicole Ngaka. Allez, je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez réagir à nos sujets, c'est bien de le faire. En attendant, nous allons démarrer la journée avec une chanson qui a été sélectionnée pour votre plaisir.
Tanganyika, Tanzania yetu, kilimo. L'amour ne cachait pas, il ne calcule pas. Je ne me fais pas croire ce que tu n'es pas. Tu crois n'avoir continué avec le son des doigts. Je ne suis pas à prendre pour une poignée d'argent.
Je ne suis pas à
prendre. On ne prête qu'aux riches.
C'est qu'il a triqué, n'a dit moi, c'est qu'il a triqué. C'est qu'il a triqué, n'a dit moi, c'est qu'il a triqué. C'est qu'il a triqué, n'a dit moi, c'est qu'il a triqué.
Voilà, merci, merci de nous suivre partout en République démocratique du Congo et même en dehors de la RDC parce que bon nombre en ce moment nous suivent sur www.radiocapi.net.
Okapi,
Okapi, Actu, pour la paix. Et tout de suite là, nous abordons un sujet qui intéresse particulièrement les femmes, puisqu'il s'agit des femmes et de la migration internationale. Je sais que les hommes aussi sont motivés par ce sujet, parce que vous savez que sur les 191 migrants internationaux, 95 millions sont des femmes, d'après un rapport du Fonds des Nations Unies pour la population. Cependant, certaines d'entre elles, il faut le savoir, sont victimes de véritables violations des droits humains. Pourquoi les femmes, particulièrement les Congolaises, émigrent-elles? Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent pendant le parcours? Nous aurons beaucoup plus d'éléments d'information avec notre invité. Il s'agit du professeur Bernard Lutantala, démographe. Pour l'instant, nous allons faire le point de la situation avec notre confrère Judy Kachama, qui est avec moi dans ce studio. Je préfère donc à tous ceux qui nous suivent vraiment réagissez, chers auditeurs, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez des informations à nous fournir. Réagissez donc au 081-070-2050 ou écrivez-nous action@radiocapi.net. Judy Kachama, vous êtes avec moi pour aborder cette question. La question de la migration fait couler beaucoup d'encre de salive ces jours-ci. Bonjour tout d'abord.
Bonjour Nicole. Oui, bien sûr, la question de la migration est d'actualité. La plupart des États à travers le monde se sont mobilisés pour combattre l'immigration clandestine qui ne cesse de prendre d'ampleur. À ce sujet, des discussions auront lieu la semaine prochaine au siège des Nations Unies à New York sur... cette question, n'est-ce pas, la question de la migration internationale.
On parle dans bien des cas de la migration de la femme, c'est vrai. Oui. Mais est-ce que beaucoup de Congolaises émigrent?
Dans notre pays, 4 migrants sur 10 sont des femmes, d'après le professeur Bernard Lutantala, démographe. Et selon le FNUAP, Fonds des Nations Unies pour la population, sur les 191 millions de migrants internationaux, 95 millions sont des femmes. Donc ça c'est sur le plan mondial.
J'imagine qu'on a eu à faire des enquêtes, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population a fait des enquêtes.
Bien sûr.
Mais quels sont les problèmes que rencontrent souvent les femmes migrantes?
Celles qui remplissent toutes les formalités au niveau des ambassades voyagent sans problème. Les femmes qui voyagent dans l'irrégularité sont celles qui rencontrent beaucoup de problèmes. Alors, lors du lancement national du rapport 2006 du FNUAP sur l'état de la population mondiale, nous avons suivi un témoignage poignant sur le parcours héroïque d'une femme migrante. Elle est arrivée en France 4 ans plus tard, en passant par la Zambie, l'Afrique du Sud et la Suisse. Tout ceci a duré 4 ans. Alors, pendant leur périple, les femmes migrantes sont souvent victimes de la maltraitance, de l'exploitation et subissent beaucoup de
abus.
Des abus sexuels.
Oui.
Et à ce sujet, d'ailleurs, je vous propose de suivre ce témoignage.
J'ai deux témoignages, des cas de gens qui me sont proches. Le premier cas, c'est le cas propre de ma grande sœur. Elle voulait atteindre l'Europe. Elle voulait surtout aller en Angleterre, mais en passant par le Portugal. Arrivée au niveau du Portugal, elle a été cueillie là-bas et retenue dans un centre là, dans des conditions qui n'étaient pas vraiment bonnes. D'après ce qu'elle m'avait dit quand elle est rentrée, et ils étaient maltraités dans ce centre-là. Quand les gens des droits de l'homme venaient, tout ça, les agents d'immigration s'arrangeaient pour les cacher. Et bon, quand elle a vu que ça en était trop, elle avait elle-même décidé, elle avait accepté de rentrer. Le deuxième cas, c'était une copine. Elle devait aller au Canada. Mais l'avion devait transiter par la Belgique. Arrivée au Canada, pendant les transits, là, elle a été cueillie et ils étaient gardés dans un centre-là. D'après son témoignage, ce n'était pas bon parce que dans ce centre-là, on les avait mis comme ça, et les hommes et les femmes, dans des chambres qui n'avaient pas de protection, il n'y avait pas de clés, tout ça. Et le soir, comme pour les favoriser à faire des bêtises, on venait leur distribuer des préservatifs.
Et voilà la réalité, lorsque vous immigrez ailleurs et surtout que vous le faites dans des conditions qui ne sont pas correctes, les conséquences sont souvent celles-là,
oui.
Judy Kachama.
Oui, bien sûr.
Ça, sont les témoignages des personnes, en tout cas d'un monsieur que vous avez rencontré.
Oui, c'est un monsieur dont la sœur et la copine avaient subi ces problèmes-là, mais c'est difficile sur place de trouver quelqu'un qui peut vous...
Qui peut reconnaître
et vous dire qu'elle a subi, par exemple, des abus sexuels, c'est un peu difficile.
C'est difficile.
Ouais.
Mais une question, tout de même. Pourquoi ces femmes préfèrent-elles émigrer?
Le regroupement familial, les études et l'emploi sont les raisons principales de l'émigration des femmes. Cependant, d'autres vont à la recherche du bien-être. Je vous propose le témoignage d'une dame qui attend depuis 4 ans d'aller rejoindre son mari.
C'est pas facile, tu vois, on était habitués à être ensemble. Et puis, un jour...
le mari est parti, on pensait pas que ça pouvait prendre beaucoup de temps comme ça. Ah, il doit arriver quand même à s'installer, hein. Là où il est parti, c'était pas, il n'avait pas un travail déjà bien. Et puis deuxièmement, il y a les problèmes des visas. Hein, pour obtenir le visa ici, il y a quand même beaucoup de conditions qu'on donne. Entre autres, beaucoup de papiers qu'on doit présenter, hein, pour nous qui attendons un regroupement familial. Hein, tu vois, je suis resté avec l'enfant. Il faut beaucoup de papiers pour arriver à obtenir le visa à partir de l'ambassade ici sur place. Bon, on attend qu'on réunisse tous les papiers, tout ce qu'il faut pour finalement aller et avoir un dossier qu'on ne peut pas rejeter au niveau de l'ambassade.
Voilà, donc souvent, il y a beaucoup de problèmes hein, quand on veut émigrer vers d'autres cieux, même si on est dans ses droits, hein, n'est-ce pas? On le fait parce qu'on n'a pas le choix. Il y a toujours des problèmes, notamment pour acquérir le visa, raison pour laquelle on préfère prendre parfois des chemins détournés. Mmh. Je ne sais pas, je dis, j'aimerais que tous ceux qui nous suivent, vraiment, vous qui nous suivez à travers le pays, je sais que bon nombre peut-être nous suivent en ce moment, pourquoi pas en France ou encore en Belgique, et vous aimeriez réagir là-dessus, faites-le. Vous pouvez nous écrire à action@radiocapi.net ou carrément nous appeler ou encore envoyer un SMS au 081 070 20 50. Les femmes qui émigrent pour le travail, je dis Kachama, oui. Quel genre de travail est-ce qu'elles font?
Ben, vous savez que les émigrés sont souvent gênés hein, quand on leur demande ce qu'ils font comme travail en Europe ou ailleurs. Mais d'après le rapport du FINUAP, la plupart des femmes migrantes sont employées des maisons et travaillent comme domestiques. Elles prennent soin des malades, des enfants et des personnes âgées. D'autres travaillent dans les exploitations agricoles et travaillent comme serveuses de restaurants. Il y a aussi des enseignantes, infirmières, professionnelles des spectacles, travailleuses de l'industrie du sexe, etc. Cependant, certaines sont maltraitées par leur patron, d'autres sont soumises vraiment à l'esclavage sexuel.
Parce qu'elles ont de faux papiers, peut-être, ou peut-être parce que le patron sait que bon, il peut toujours s'arranger avec certains policiers pour qu'on les fuse. Alors.
Ben, le patron sait qu'elle est dans une position de faiblesse.
Inconfortable.
Oui.
Alors il abuse de la situation.
Oui, voilà.
Je dis cachement, on apprend qu'il y a aussi de plus en plus des infirmières, hein, d'après ce que nous avons appris, je ne sais pas si c'est vrai, qui émigrent. Est-ce que c'est vrai?
Oui, d'après nos sources, il y a une forte demande du personnel sanitaire en Europe et en Amérique du Nord. Cela s'explique par le vieillissement des populations et par la pénurie d'infirmières et de médecins, d'où le départ massif d'infirmières des pays sous-développés. Selon nos sources, les compatriotes vivant en Europe, par exemple, préfèrent revenir au pays pour épouser des infirmières, parce qu'ils savent que les infirmières ont beaucoup de débouchés au niveau de l'Europe.
Le FINUAP a organisé donc le Fonds des Nations Unies pour la population, je dis, a organisé dernièrement une conférence au cours duquel il avait présenté son rapport hein, sur la population, sur l'état de la population 2006,
oui.
Avec comme thème vers l'espoir, la femme et la migration internationale. Vous étiez là, c'était dans quel but?
Bon, à ce sujet, je vous propose d'écouter M. Koulibaly, représentant du FINUAP RDC.
Ben disons, nous, on est, UNEP ne fait pas ceci. C'est au gouvernement de le faire. Nous, simplement, on tire la sonnette d'alarme en donnant les informations et les faits. Maintenant, au gouvernement, comme l'a dit tout à l'heure le ministre du Plan, au gouvernement de prendre note de ces éléments-là et de faire les différentes politiques nécessaires pour que les femmes partent dans de bonnes conditions et que ce qu'elles gagnent, les femmes comme les hommes, puissent retourner dans le pays pour aider le pays à se développer. Donc je crois que c'est ça qu'on adresse notre but, c'est de donner l'information et au gouvernement d'agir.
Donc le gouvernement devrait protéger les Congolaises hein, qui émigrent, ce n'est pas le Fonds des Nations Unies pour la population qui va le faire.
Non, le FINUAP donne juste l'information et c'est au gouvernement de prendre les mesures pour protéger les femmes.
Est-ce que vous avez essayé de tendre le micro à un représentant du gouvernement, notamment donnant un exemple à la ministre de la Condition Féminine?
Bien sûr, nous avons tendu notre micro à Mme Faïda Mwangiloa, ministre de la Condition Féminine et Famille. Je propose de l'écouter.
Oui, effectivement, c'est une question qui préoccupe les autorités de l'État, les autorités congolaises. Surtout lorsqu'on voit la migration de la femme congolaise, de la jeune fille congolaise, le parcours qu'elle effectue avant d'arriver sur le lieu, c'est périlleux, c'est pénible. Beaucoup d'entre elles sont exposées à des maladies, à des violences sexuelles et tout. Et c'est là, je crois, que nous devons avoir une politique claire de migration. Et comment pouvoir atténuer cela, c'est juste par le travail, parce que les raisons profondes de toutes ces migrations, c'est plus la pauvreté et les guerres, les conflits armés. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de jeunes filles qui préfèrent aller vivre en Europe, suivre les fiancés, et là, elles ne trouvent pas le mariage, mais des deux aussi, elles sont à la portée de tout le monde, de tout passant, exposées à des maladies et autres. Et là, nous disons que c'est une situation très préoccupante. Ça nous a beaucoup interpellés et ça nous donne vraiment une raison de plus de travailler d'urgence, d'arrache-pied pour améliorer les conditions de vie de la femme.
Donc on voit tout de suite que le gouvernement est au courant des problèmes que rencontrent les femmes, notamment la ministre de la Condition féminine et famille, puisqu'elle a dit que on connaît les problèmes exposés, les problèmes auxquels les femmes sont exposées, notamment la maltraitance, l'exploitation.
L'exploitation, les abus sexuels, les abus sexuels, autres problèmes,
Tout ça sont réels. J'aimerais que tous ceux qui nous suivent, vraiment, ce n'est pas tous les jours qu'on aborde ce sujet. Si on le fait aujourd'hui, c'est pour vous. C'est pourquoi on vous invite vraiment à réagir là-dessus au 081 070 2050. Pour celles qui nous suivent sur Internet, vous avez déjà eu à vivre, vous avez déjà été, je dirais, exposé à la maltraitance ou encore vous avez vécu un abus sexuel. Parlez-nous-en, vous pouvez nous écrire, on gardera le nom anonyme, vous pouvez nous écrire à action@radiocapi.net. Je dis que Chama, on va retrouver dans un instant Bernard Luntuntala, il est démographe et recteur de l'UNIKIN. Avec lui, certainement qu'on pourra aller plus loin sur cette question. Avec vous, on s'arrête là, je dis que Chama.
Oui, voilà, merci, à la prochaine.
Merci beaucoup et à la prochaine.
Okapi Action.
Merci de nous suivre partout en République démocratique du Congo. À la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale.
La législation congolaise réglemente la manière dont...
Pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture.
Pendant tout ce temps, il coupait les salaires des infirmiers à la source.
Vous avez des preuves de ce que vous avancez, Madame Brigitte?
Nous sommes d'accord avec cela.
S'il vous plaît, Madame Brigitte. S'il vous plaît, Madame Brigitte. Est-ce qu'on peut s'écouter?
Okapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa. Et voilà, je vous le disais tout à l'heure, notre invité Bernard Luntuntala est avec nous dans ce studio, il est démographe. Hein. Avec lui certainement qu'on pourra en savoir un peu plus sur cette question concernant la migration internationale, notamment en ce qui concerne les femmes, parce que nous apprenons que les femmes rencontrent beaucoup de problèmes lorsqu'elles émigrent vers d'autres cieux. Bernard Luntuntala, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre aux questions des auditeurs et de vous être déplacé jusque ici dans notre studio. Vous êtes démographe. Est-ce que vous êtes, je commencerai par la première question, vous êtes au courant des problèmes que rencontrent ces femmes congolaises qui émigrent vers d'autres cieux?
Oui et non, oui, parce que c'est un domaine dans lequel on travaille depuis plusieurs années. Toutes nos recherches portent sur le problème de l'immigration depuis les années 84. Non, parce que on a encore un problème de données, là. Il n'y a pas beaucoup de données pour qu'ils puissent nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Mais les quelques informations que nous avons indiquent effectivement que les femmes rencontrent énormément de problèmes, aussi bien en ce qui concerne la migration interne que la migration internationale. Et tout à l'heure, Madame la ministre a déjà commencé à circonscrire un certain nombre de problèmes. Moi, je pourrais peut-être revenir sur certains autres qu'elle rencontre, notamment dans les cheminements migratoires qui les amènent vers l'Europe, dans l'insertion dans les pays européens, etc. Et ça, c'est des choses qu'on pourrait évoquer.
Voilà. Nous apprenons que sur les 191 migrants internationaux, 95 millions sont des femmes, d'après un rapport du Fonds des Nations Unies pour la population. Est-ce que vous confirmez ces chiffres?
Ben oui, absolument. Ce sont des chiffres qui sont confirmés. Encore que, il faut dire que ces chiffres ne prennent en compte que les migrants réguliers, c'est-à-dire ceux qui ont les statuts officiels. Les clandestins ne sont certainement pas pris en compte dans ces statistiques-là, parce que les clandestins n'ont pas intérêt à se faire recenser lorsqu'il y a des opérations censitaires. Donc, vous voyez que c'est un problème important. La moitié, un peu plus de la moitié des migrants sont des femmes.
Oui, un peu plus de la moitié. Et pourtant, on a plus l'impression, hein, c'est juste une impression que c'est plus les hommes qui émigrent.
Ben, vous le dites si bien, c'est une impression. En fait, pendant longtemps, ça a été les hommes. Pendant longtemps, ce sont des hommes qui sont partis. qui sont partis d'abord, permettez-le moi, pour aller préparer le terrain, parce que quand on regarde les raisons pour lesquelles les femmes partent, c'est d'abord pour le regroupement familial, c'est-à-dire qu'elles partent d'abord pour rejoindre le conjoint. Et donc, il est tout à fait normal que ce soit les conjoints qui soient partis les premiers. Et puis, une fois que le conjoint arrive et s'installe à du boulot, à une maison, alors il fait venir la femme et les enfants qui sont restés au pays. Et là, il y a des drames. Il y a des drames, notamment la longue attente de la femme qui doit rejoindre son conjoint. Dans notre cas ici en RDC, nous avons constaté qu'il y a des femmes qui attendent depuis 15 ans le moment où elles doivent rejoindre leur mari.
Oui.
Et alors, vous imaginez 15 ans d'attente, quelles angoisses, quels mythes, quels espoirs elles caressent pendant toute cette période, quelles charges elles doivent assumer par rapport à l'éducation des enfants et même quels problèmes ne rencontrent-elles pas par rapport à la belle famille qui croit que c'est la femme qui reçoit tout du mari qui est allé à l'étranger, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de problèmes qu'on devait pouvoir...
Certainement, Bernard Lutuntala. Mais ceux qui nous suivent, est-ce que... ce serait bien de leur donner quelques précisions. Est-ce que c'est uniquement pour des raisons de regroupement familial que les femmes émigrent aujourd'hui au Congo?
Non. J'ai parlé de la raison la plus importante. Donc, c'est d'abord pour le regroupement familial que les femmes partent. Mais la deuxième raison qui est avancée, c'est pour poursuivre les études. Et la troisième raison qui est avancée, c'est pour aller chercher à mieux gagner la vie.
C'est pour aller chercher à mieux gagner la vie.
Et ça veut dire justement qu'elles partent parce que la situation économique au pays est difficile, parce que la situation politique n'augure pas de lendemain meilleur, et donc les gens s'en vont là où ils peuvent espérer vivre mieux qu'ici.
C'est ça. Nous avons appris que pour celles qui émigrent pour aller trouver du travail, dans bien des cas, c'est pas, je dirais, un travail qui les honore, dans la plupart des cas. Vous êtes au courant de cela,
je crois. Oui, absolument. Il y a même ça, c'est un domaine très important qui devrait faire l'objet d'études plus serrées. Vous savez, il y a un processus de déqualification des migrants que l'on observe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent avec de gros diplômes, mais qui, sur le terrain, dans les pays qui les reçoivent, sont obligés de faire du n'importe quoi. Alors, écoutez, au Canada, vous avez des chauffeurs taxi qui sont des médecins. Moi, j'ai vécu ça parce que j'ai vécu 6 ans au Canada, donc j'ai vu ça. J'étais là pour des raisons d'études. Je préparais ma thèse de doctorat, donc moi, c'était pour des raisons d'études. Et puis, une fois que j'ai fini, je suis rentré au pays. En Europe, vous avez beaucoup de... Vous savez, d'après les statistiques de notre pays, 10% des personnes qui partent de notre pays sont porteurs d'un diplôme de licence.
10%.
Alors, 23% à peu près sont porteurs d'un diplôme de graduat. Donc, ça vous fait déjà 33% des migrants qui partent avec un niveau universitaire. Et quelque chose comme 50% d'autres partent avec un diplôme d'État. Donc, si vous mettez ensemble, ça fait 80% des Congolais qui partent qui sont instruits. Bon, maintenant, le problème, c'est malheureusement, le niveau d'instruction qu'ils ont acquis au pays ne profite pas au pays. Je suis désolé, moi. Si vous prenez, et ça, j'ai dit ça au mois de mars, vous savez, au mois de mars, il y a eu une conférence internationale sur l'immigration organisée par le Royaume de la Belgique, et j'y ai assisté, c'était organisé par le ministre de Decker. J'ai dit ceci exactement. Comment pouvez-vous accepter qu'un paysan, avec ses maigres moyens congolais, arrive à produire un médecin, donc à avoir un enfant qui finalement arrive à être médecin? Est-ce que vous pouvez imaginer le coût que ça représente d'avoir un médecin? Et puis finalement, ce monsieur-là, une fois médecin, qui a étudié aux frais de l'État congolais, aux frais de ses parents, s'en va ailleurs travailler pour ce pays-là, qui n'aura rien déboursé. Il n'a pas le choix, c'est vrai, il n'a pas le choix, mais... C'est pour ça que nous devons interpeller les décideurs politiques. Vous allez en Afrique du Sud aujourd'hui, vous constaterez quoi? Vous avez beaucoup de chance si vous allez en Afrique du Sud pour des soins, que vous soyez reçu par un médecin congolais. Ils sont à peu près 2000 là-bas, paraît-il, des médecins congolais, que nous avons formés ici, avec les moyens de bord, mais qui sont très appréciés dans les hôpitaux.
Oui, Bernard Lutuntala, j'ai l'impression que pour vous, le fait d'émigrer vers d'autres cieux, c'est mauvais. Est-ce que ces personnes ont le choix? Parce qu'en restant ici, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Beaucoup sont des chômeurs. Un médecin, on le sait, le salaire d'un médecin, c'est pas rose. Hein, c'est pas un salaire, comme qui dirait, qui honore le médecin. Alors la plupart préfèrent aller vers d'autres cieux. En Afrique du Sud, vous l'avez dit, parce que au moins là-bas, ils sont bien payés.
Bah oui, mais écoutez, pour répondre à la question, nous faisons ce que nous appelons des études coût-bénéfice. Il faut faire une étude coût-bénéfice. Quel est le coût et quel est le bénéfice que le pays a par rapport à la migration. À mon avis, la migration telle que nous l'observons aujourd'hui, c'est un manque à gagner important pour les pays. Maintenant, vous me dites bien, et vous avez raison, les gens partent parce qu'ils n'ont rien ici. C'est vrai. Bon, mais est-ce qu'il faut pour autant partir?
C'est ça la grande question.
Voilà. Pourquoi ne pas se battre ici au pays, trouver quand même des moyens pour arriver à avoir une polyclinique, forcer le gouvernement à améliorer les conditions de travail des médecins, des professeurs, des intellectuels, au lieu de partir?
Et ça, il y en a beaucoup qui se sont battus, les auditeurs nous le diraient. Peut-être, il y a des médecins qui sont restés au pays, qui ont été médecins pendant 20 ans, 30 ans, mais finalement, qu'est-ce que ça leur a apporté? Contrairement à leurs collègues, ils ont été terminés avec certains médecins qui, eux, ont préféré partir et qui, aujourd'hui, réussissent. Ça marche plutôt bien. Ils ont une belle vie.
Bah oui, c'est pour ça que là, je réponds maintenant à l'autre volet, c'est là où la migration peut être bénéfique pour le pays. Mais je dis bien pour le pays. Ça peut être bénéfique pour le pays dans la mesure où, et seulement si, le gouvernement, l'État congolais, gère ces migrations-là. Aujourd'hui, madame, personne de ce pays ne peut vous dire combien sont-ils les Congolais qui sont à l'étranger. Personne.
Oui,
que font-ils là-bas? Personne ne peut vous le dire. On a des bribes d'informations.
Oui.
Autre chose, pour que ces migrants contribuent au développement national, il va falloir que l'État se préoccupe de ces phénomènes-là. Effectivement, je vous dirais, madame, qu'en 2004, nos migrants congolais ont rapatrié dans ce pays quelque chose comme 96 millions de dollars. Et ça faisait à cette année-là plus ou moins 10% du budget national. Donc, ça, c'est de l'argent qui peut être utilisé pour la reconstruction du pays.
Bernard, tout à l'heure, vous semblez être vraiment bien informé. Vous avez des chiffres avec vous. Est-ce que vous avez une enquête à ce sujet?
Ah ben oui, vous savez, je vous dis que je fais mon mémoire de maîtrise sur l'immigration, ma thèse de doctorat sur l'immigration, je donne ce cours à l'Université de Kinshasa, j'ai des assistants qui font des thèses là-dessus. Donc, nous avons pu, avec tous ces assistants qui ont fait des mémoires, des thèses, glaner à gauche, à droite des informations.
Alors, pourquoi ne pas amener toutes ces informations que vous avez en votre possession, les thèses, les mémoires, le doctorat, pourquoi ne pas amener tout cela auprès du gouvernement pour justement carrément alerter le gouvernement? Parce qu'il y a un problème, il y a un manque à gagner énorme pour le pays, pour le Congo. À supposer qu'aujourd'hui tous ces médecins congolais qui sont allés ailleurs reviennent, mais vous rendez compte?
Ce sera,
je dirais, terrible pour le pays, parce que non seulement beaucoup de gens qui préfèrent aller se faire soigner ailleurs vont revenir ici, vont revenir ici pour se faire soigner. Et puis, en plus, peut-être qu'il y a des touristes qui sont là et qui auraient aimé se faire soigner, mais du fait qu'ils n'ont pas confiance. Mais aujourd'hui, beaucoup viendraient uniquement pour se faire soigner ici. Il fut un temps, il y a un auditeur qui nous l'a dit un jour, que beaucoup de gens quittaient le Congo-Brazzaville pour venir se faire soigner ici au Congo.
Affirme.
Et même l'Afrique du Sud pour venir se faire soigner au Congo. Mais aujourd'hui,
c'est l'inverse. Nous avons ici reçu des malades sud-africains dans les années 70. Nous avons reçu des malades sud-africains qui sont venus se faire soigner dans notre pays. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Donc, ça vous montre comment nous avons perdu notre aura et notre place dans l'Afrique. Mais vous me dites pourquoi on ne met pas ces documents à la disposition du gouvernement. Mais c'est le travail que nous sommes en train de faire. Je me suis déplacé de mon bureau pour venir jusqu'ici parler à la radio Capi. C'est pour sensibiliser l'opinion, pour leur dire on connaît les phénomènes. Et c'est ça le problème de ces pays.
Mais des rencontres à huis clos avec...
Non, mais ce n'est pas à huis clos. Non, mais ça, là, vous posez un problème important. Les autorités politiques savent qu'il y a l'université qui est là. Qu'à l'université, il y a des démographes qui sont là. Il y a un département de démographie à l'université Kinshasa qui a fait des études sur ce phénomène. Jamais ils n'ont voulu.
Ils ne sont pas informés.
Mais non, mais l'université de Kinshasa est une université publique. Donc ça pose le problème de la place de l'université dans tout ce que se fait dans ce pays.
Mais reconnaissez, professeur, que dans bien des cas, la démographie est un peu, comme qui dirait, ignorée. On néglige ça, hein?
Ben non, c'est pas qu'on néglige, on ne connaît pas ce que c'est. Le recteur de l'université de Kinshasa est démographe. Donc au moins les gens pouvaient commencer à s'intéresser à ça. C'est dire, ben, c'est monsieur qui est démographe, c'est quoi la démographie? Comment ça se fait? Non. Il faut quand même, madame, il faut que nous puissions comprendre quelle est l'importance de l'université dans un pays. Nous avons toutes les informations ou presque nécessaires pour guider l'action gouvernementale. Mais il faut que le gouvernement se dise, l'université c'est notre instrument de politique. c'est l'instrument de notre politique. Donc, chaque fois que le gouvernement voudra prendre des décisions, voudra réfléchir sur un phénomène, au lieu de faire venir des experts des pays de gauche à droite, commencez par voir dans votre université congolaise qu'est-ce qu'on peut y trouver.
Je crois que votre appel a été entendu.
J'espère bien.
Lana Lodontala, on va clôturer cet entretien sur les femmes et la migration internationale aujourd'hui. Qu'est-ce que la migration peut amener, je dirais, comme changement dans un pays?
Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez,
dans le sens positif.
Dans le sens positif. Oui. D'abord, je vous dirais que le problème, pour prendre par exemple ceux qui viennent, parce qu'il y a deux faces de la migration, il y a ceux qui viennent, il y a ceux qui partent. Ceux qui viennent, c'est ce qu'on appelle des immigrants. Alors, dans notre pays, il y en a plein. En 84, il y en avait 1 700 000. Donc, c'est tout un pays de gens étrangers.
Ceux qui partent sont des immigrants.
Ceux qui partent sont des émigrants.
Des émigrants.
Alors,
c'est bien de
dans les cas de les immigrants, dans les cas des immigrants,
ceux qui sont installés
au pays, il faut encourager qu'ils viennent. Surtout quand ils viennent avec des capitaux. Parce que nous avons besoin maintenant, pour construire le pays, des capitaux frais. Et il faut qu'ils viennent avec ces capitaux. Mais, il y a deux choses qu'il faut faire. Premièrement, il faut gérer le phénomène. Le problème chez nous, c'est que quand les gens viennent, ils ont tout de suite la nationalité congolaise. Et ça, ça ne va pas. Vous voyez le Canada, qu'est-ce que le Canada fait? Chaque année, le Canada décide, par exemple, en disant, ben, cette année-ci, je voudrais faire venir, mettons, 200 médecins. Ils décident. Et ils font venir des médecins. Ils encouragent l'immigration au Canada. Nous aussi, nous devrions encourager cette immigration, mais en nous assurant que les gens qui viennent respectent les lois du pays, respectent la législation, respecter tout ce qu'il y a comme
code. Et trouver un bon emploi, quelle finalité on va émigrer ailleurs?
Non, les migrants,
pour un avenir meilleur.
Les immigrants qui viennent, normalement, ils contribuent beaucoup au développement national, pourvu que l'État puisse les gérer, n'est-ce pas? Bon, donc ça c'est pour ceux qui viennent. Maintenant, pour ceux qui partent, nos compatriotes qui partent, là également, il faut favoriser leur implication dans le développement. Comment? Il faut d'abord qu'on sache où ils sont. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? S'ils doivent contribuer au développement national, dans quel secteur? C'est l'État qui doit orienter, qui doit dire, bon, maintenant, on a des problèmes, par exemple, pour la gestion des déchets à Kinshasa. Si vous avez des projets là-dessus, ben, venez investir. Il ne faut pas que
c'est que vous avez beaucoup de propositions à faire au gouvernement. Certainement que si aujourd'hui on vous a suivi, on ne manquera pas de vous contacter. Ça, c'est certain. Mais on devrait s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup à dire sur la migration internationale. On peut tout dire en une journée. Je vous remercie vraiment.
C'est moi qui vous remercie.
Participé à cette émission, Bernard Lodontala. Je rappelle que vous êtes démographe et recteur de l'UNIKIN.
Merci bien.
Esko kundi manga, koki na ebi Eda ina ka eliri na yo, liko so na monali Maholo oze Eko kalati, tiske buru Yabu anana kalati Aroba e asika, yabu de tira yo yabu Na la cana, yo me salgo.
Oh,